fidèle au poste. Xavier Nataf, Radio Judaïka.
Sur Judaïka, vous écoutez bien fidèle au poste. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h30 et deux femmes seront à l'honneur aujourd'hui dans notre émission, la réalisatrice Nourita Vive et dans un second temps, la violoncelliste Sonia Vider-Atherton que nous avons rencontrée pour vous. Mais en entame de cette émission, un petit coup de Western Spaghetti, un petit coup de Mon nom est personne. Génial du maestro Ennio Morricone.
Eh bien, toi, tu es un rabbin. Et moi, je suis un voleur. Un trafiquant de buts et un tricheur au poker, c'est moi, ça. Et toi, tu es un rabbin. Tu te fous dans la boue, tu te ramasses sur le cul, tu pars dans la mauvaise direction. Mais même sur le cul, même dans la boue, et même si tu es dans la mauvaise direction, quelque temps, tu es et tu restes un rabbin. Parce que c'est ça que tu es. D'accord ?
La recommandation du jour.
Dans son documentaire « Lettres errantes », Nourita Vive propose une exploration des langues à travers la prononciation de la lettre « R ». À travers le témoignage de 6 personnalités de langues maternelles différentes, c'est tout un monde sonore et sémantique qui se déploie. La seule lettre « R » peut être le son d'une appartenance, d'un drame, du nœud de votre relation au monde ou aux autres, la marque indélébile d'une histoire ou d'une géographie. Nourita Vive.
À Tel Aviv de mon enfance, les gens venaient de partout. Et j'étais toujours étonnée, avant qu'ils parlaient, je me suis dit comment ils vont dire mon nom. Parce que les R étaient toujours différents et on pouvait soupçonner de quelle partie du monde ils venaient, etc. Je savais qu'ils ont eu d'enfance ailleurs, la plupart des gens. Et je me suis toujours demandé, mais comment ils vont dire cette lettre-là, hein? Et parce qu'en fait, c'est celle qui trahit le plus les passages d'une langue à l'autre. Hein. Et bon, elle est. J'étais toujours pris par cette bizarrerie de cette lettre. Et en plus, c'était. Je me rappelle, c'était avant que je sache écrire. Et c'était pas. On se demande pourquoi c'est la même lettre. Quel est le rapport entre une lettre qui sort de la gorge et celle qui se roule sur la langue? Elle n'a aucune raison, pour moi, il avait aucune raison d'être la même. Et c'est pour ça qu'elle était si étrange pour moi.
La lettre R, selon comment elle est prononcée, selon qu'elle existe dans certaines langues ou dialectes, et pas dans d'autres, selon qu'on l'entende chez un parent, mais très différemment chez un autre, la lettre R peut inscrire dans le monde le plus singulièrement qu'il soit. La réalisatrice Nourrit Aviv, avec son dernier opus en salle depuis quelques jours, filme des hommes et des femmes qui parlent de leur lien à la lettre R.
En russe, il y a même un mot pour désigner les gens qui ne savent pas dire la R, Kartavich, je crois, Kartavich. Et par exemple, il y a une autre, c'est marrant, parce que Orlinoï dit le contraire. Elle est arrivée de l'Iran en Israël dans les années 70, avec l'air roulé que j'adore, aussi bien, n'était pas iranien, turc, très très doux. Et il est roulé, mais doux. Elle devait désapprendre, c'est-à-dire qu'elle a appris à ne pas rouler, et après elle apprend que les airs officiels de la radio, du cinéma, c'est les airs roulés. Donc c'est désapprendre, apprendre, hein.
Quand elle était enfant, avant de savoir déchiffrer ou écrire, pour Nourrit Aviv, les sons étaient attachés à des couleurs. Le R, lui, était trop changeant pour avoir son son à lui, donc une teinte précise. C'était une lettre errante. Son nouveau film poursuit l'aventure de la folle exploration de la langue, menée avec art et précision depuis si longtemps. On y découvre face caméra 6 personnes parler de leur rapport à la lettre R. Comme à chaque fois, la plongée est saisissante, révélant toujours plus profondément la radicale originalité de l'histoire de chacun. En découlent des histoires au croisement de l'intime et du collectif, émouvantes, violentes, résistantes, douces, étonnantes.
Je me souviens du premier bad i Oslofjorden, c'était le 1er mai.
Så jeg husker veldig godt hvordan det var å komme inn liksom, søndag ettermiddag kveld når solen gikk ned. Vi kom fra Son og kom inn i et tomt Oslo.
Jeg husker at jeg syntes at trærne var veldig høy her i forhold til i Nord-Norge.
Jeg husker at jeg ofte har tenkt, dette kommer jeg til å huske.
La réalisatrice accueille au fil de la parole des intervenants quantité de réflexions sur la langue qu'on parle, celle qu'on apprend, celle qui nous soumet ou nous libère. Qu'il s'agisse du souvenir d'un père norvégien autoritaire, plus tard sublimé par un fils devenu écrivain, ou du récit d'enfance d'une iranienne en Israël marquée par une différence de prononciation de ce R, les enjeux intérieurs, intimes, se lient forcément à des questions collectives et politiques. Le documentaire « Lettre errante » de Nourrit Aviv est actuellement visible en salle.
Shirim.
מלט מיני אספנט ומיני ערים המקומטות בואי נמלא אל הלגונות השקטות בואי לאילת, לאילת בואי לאילת, לאילת בבירת השמש, ננומש בנמש למול הרקיעים נחטוף תנומה וארוח רוח שישוב יסיענו לא לחשוב על מאומה עצומי עיניים נמלט בשניים למים אל גני האלמוגים בין כחול לבין ירוק את בגדי הים נזרוק נשליך אותם אל הגלים בואי נמלט מנעי אספלט ומנערים המקומתו בואי נמלט אל הלגונות השקטות פרה הרוח הנשר רוח לי כמו לטער כמו דולפין אשר נפלט מים כמפרץ אלת כמו הפתעה תנו לי רק חודשיים על המגלשיים ועל גלי המים לא אמת בין כחול לבין ירוק בן אדם אני יכול לחיות לך בואי נמלא בואי נמלט אל הלגונות השקטות בואי לאילת, לאילת בואי לאילת, לאילת
L'invité pop.
Je m'appelle Sonia Wider Atherton, donc j'ai un nom de famille un peu compliqué où j'ai le nom de ma mère et le nom de mon père. Et je suis musicienne et plus particulièrement violoncelliste. J'étais une adolescente qui s'est organisée un monde très vite, qui était le monde du son. Parce que autour de moi, c'était assez mouvementé, très passionnel, beaucoup de il y avait beaucoup de montées vocales, ma mère est quelqu'un qui parle très fort, qui s'énerve très facilement, mon père parlait moins, mais il y avait quelque chose que je sentais de pas reposant pour moi, pas rassurant, voilà. Et donc je sentais une sorte de danger à cet endroit-là, donc c'est comme si je m'étais créé un monde à moi où la musique était très présente, mais avant la musique, même les sons. Des sons, des timbres de voix que je cherchais qui me rassuraient, des sons que je collectais partout. Puis après, c'est devenu la musique, un xylophone, et puis ça me protégeait. Et je vivais très, très entre deux univers, comme ça, l'univers extérieur et mon univers que je m'inventais. Manière très, très active. Et alors, justement, dans mes recherches de sons, j'ai fait pas mal d'instruments. Donc, je vous ai dit xylophone, un peu de piano, puis je voulais un instrument à cordes, j'ai fait de la guitare, puis c'était toujours pas ça. Je voulais un instrument à archer. D'ailleurs, c'est ma sœur qui m'a rappelé que j'exprimais vraiment que je voulais un son que je puisse faire durer très longtemps. Donc, voilà, j'avais vraiment une idée de ce que je voulais. Et mes parents sont pas musiciens. Et un jour, j'ai mis un disque sans savoir ce que j'allais mettre, et c'était du violoncelle. Et là, ça m'a happée. Et je me souviens de cette scène, parce qu'on jouait aux osselets avec deux, trois copains de classe. Et j'ai mis le disque, et je me suis rassise. Et là, le son du violoncelle m'a happée, et je me suis arrêtée de jouer. Et j'étais complètement hypnotisée. Et je me souviens de leur réaction en disant « Bah quoi, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu joues pas ?» Et c'est comme si eux, ils n'avaient pas entendu la même chose que moi, ils continuaient. Et moi, j'étais saisie. Et donc, encore une fois, sortie du moment que je vivais avec mes copains. pour aller dans un autre endroit. Mais après, ce qui a été plus difficile, c'est de joindre le monde, disons, plus caché, plus... pas souterrain, mais vraiment... l'autre univers est l'univers de la vie de tous les jours, ou l'univers qu'on vit tous, quoi, qu'on sort, on voit les gens, on parle à... Et j'ai mis beaucoup d'années à faire cohabiter les deux. C'est tout lié à des immersions dans des univers à travers la musique dans Chant juif, parce que j'avais fait un travail de recherche de Chant juif pour un film de Chantal Akerman. Et donc, moi, je ne savais pas grand-chose de mes origines. Ma mère n'en parlait pas, qu'elle avait fui la Roumanie, je savais. Qu'elle est juive, je savais, mais rien de plus, quoi, elle en parlait pas. Et à travers cette musique, quand j'ai commencé à la jouer, à l'écouter, à l'aimer, c'était incroyable parce que je commençais un chant et j'avais l'impression que je pouvais le finir par cœur, quoi, comme s'il avait fait partie de moi, mais je ne le savais pas. Donc, à travers la musique, j'ai découvert des choses... Et je me suis dit, tiens, mais c'est là, ça. Et je ne le savais pas. C'est comme si vous ouvriez un placard et que vous vous rendiez compte que là, vous avez une chemise blanche, une chemise bleue, des choses, plein de choses qui étaient restées cachées. Et donc, je lui ai dit, mais Yo, parce que ma mère s'appelle Johanna et on l'appelle toujours Yo, je dis, mais raconte-moi. Du coup, ça m'a permis de lui parler. Et là, elle a commencé à raconter. Qu'est-ce que ça avait été que... sa jeunesse, le fait qu'elle n'avait pas le droit d'aller à l'école parce qu'elle était juive, qu'elle avait quelqu'un qui venait lui faire des cours à la maison parce que voilà, l'école était fermée aux juifs, parce que les lois commençaient à devenir très, très proches des nazis, quoi, parce que les Roumains ont été assez collaborateurs. Et la fuite et son arrivée au Liban, enfin, elle a commencé à parler. Donc à travers la musique, j'ai découvert... tout un univers et qui m'a permis d'aller poser des questions. Voilà. Et après, Chant d'Est, c'est plus sur l'identité et plein de langues, parce que je pense que la langue, c'est très important, parce que c'est avec la langue qu'on raconte tout ce qu'on ressent, tout ce qui fait mal, tout ce qu'on cherche à comprendre. Plus on parle, mieux on se sent. Donc c'est un travail sur les langues. La Middle Europa, où il y a dans un tout petit territoire, grand comme un pays, il y a je ne sais combien de langues, et surtout des gens, par exemple, qui ont été élevés dans une langue, qui ont été à l'école où il fallait parler une autre langue, parce que c'est la langue qu'on imposait. Ensuite, l'âge adulte, ils en parlaient encore une autre, et ils étaient perdus. Et du coup, c'est à travers la langue qu'ils allaient mieux. Et alors, c'est vrai pour les écrivains et c'est vrai pour les musiciens. Ils cherchaient la chaleur de l'enfance, parce qu'on passe... On passe notre vie à chercher quand même. Il y a une parabole justement talmudique que j'adore. C'est ça, c'est une parabole, c'est comme une histoire qui dit que quand on est, il y a un petit ange qui descend et qui avec sa baguette tape sur la lèvre supérieure, d'où le petit creux qu'on a tous sur la lèvre supérieure, et que ce petit coup de baguette provoque l'oubli. Pour qu'on puisse vivre en n'ayant pas trop un sac lourd. On oublie et on dit « vie maintenant ». Et toute la vie, les choses reviennent et on se souvient, mais on est plus libre parce que les souvenirs viennent quand on est prêt à les avoir, en fait. Donc, ils ne vous écrasent pas. Donc, tous ces projets, pour moi, ils sont liés à au petit coup de baguette de l'ange. Je vais chercher des mélodies qui me bouleverse, que je trouve magnifique, par exemple le récit, là, Joseph et ses frères, c'est tellement beau parce qu'on sent qu'il dit une phrase et puis il attend, et puis il en dit une autre, et puis il attend encore, donc je me suis vraiment inspirée de ce rapport au temps qui est très particulier. L'histoire aurait été différente si ma mère n'avait pas fui, si le français n'était pas sa troisième ou quatrième langue, si elle n'avait pas un mélange de cultures d'Europe de l'Est et arabe, puisqu'elle a vécu à Beyrouth, parce que c'est le seul pays qui les a accueillis à ce moment-là. Puis elle a eu la rencontre avec mon père, qui vient de mourir il y a quelques semaines, mais il était protestant américain. Et le fait qu'ils se soient trouvés comme ça, chacun passionné par l'histoire de l'autre, chacun voulait en fait oublier son histoire. Mon père, je crois qu'il étouffait dans son milieu. Et le fait de rentrer dans la culture et la personnalité de ma mère lui faisait un bien fou. Et ma mère voulait oublier, elle, le côté tellement chaotique et violent de sa vie à elle, oublier le judaïsme, oublier tout ça, et rentrer plutôt dans l'univers de mon père. Et finalement, ils ont fait des voyages l'un vers l'autre, tout en restant quand même l'un très protestant et l'autre très juive. Le fait de venir de deux cultures tellement différentes, ça apprend le grand écart. Hein. Et on se dit, mais moi, je suis quoi là-dedans? C'est où sont mes racines? Et voilà, il y a un jeu subtil. Mais après, ce qui se passe, c'est qu'on prend des deux et on construit quelque chose qui est à vous et rien qu'à vous. Et ça, c'est intéressant. C'est le moment, je trouve, où on ne subit pas des choses qui vous ont été... Plus on les comprend, plus on en fait quelque chose à soi. Moi, le judaïsme, je crois que j'en ai fait quelque chose à moi. J'ai étudié le Talmud, ça m'a donné beaucoup de force dans beaucoup de domaines. J'ai appris beaucoup sur le rapport à la parole et au silence de mon père. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est comme une pâte à modeler. Je l'ai modelée à ma manière. Je sais ce que j'ai appris de lui et ce que j'en ai fait. Et je pense de ma mère aussi. Et on en fait quelque chose de personnel qui n'est plus juste une chose subie.
Fidèle au poste, Xavier Nataf, Radio Judaïka.
Ma baby, tu moques des roses. Et de toute autre chose, ma baby ne pense qu'à moi. Ma baby se moque des bagues et bracelets, ma baby se moque des châteaux et palais, ma baby se moque de tout. J'en suis complètement fou. Elle est vraiment très jolie. Oui. Elle pourrait faire du cinéma. Ma baby ne pense même que moi. Se moque des roses et de toute autre chose. Ma baby ne pense qu'à moi. Ma bébé se moque des bagues et bracelets. Ma bébé se moque. J'adore ses balais, oui. Ma bébé se moque de tout. J'en suis complètement fou. Elle est vraiment très jolie. Elle pourrait faire du cinéma, mais tout cela ne l'intéresse pas. Elle pourrait faire
My Baby Just Care For Me, interprété par Marcel Zanini. Ainsi se termine notre émission du jour. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode de Fidèle au Poste à 14h sur l'antenne de Judaïka. Il est temps pour moi de laisser la place à mes petits camarades. Alors, arrivederci. Goodbye.